Septième partie. Les forces que Luc attendait ne revinrent pas. Harcelé par une continuelle inquiétude qui le poursuivait jusque dans son sommeil, il ne goûtait de vrai repos ni jour ni nuit. Il n'avait plus d'accès de délire, mais une fièvre lente le minait, en dépit de tous les remèdes. Il ne mangeait pas, au grand désespoir de sa mère, qui s'ingéniait à tenter son appétit par toutes sortes de surprises friandes. Malgré sa constante lassitude et sa faiblesse, il s'obstinait à travailler dans la maison, reprenant ses occupations d'autrefois. Mais s'il essayait de couper du bois, par exemple, la hache échappait bientôt à ses mains, une sueur froide mouillait son front et il se laissait tomber sur une souche, anéanti, tremblant la fièvre. « Je ne suis plus bon à rien, mère, » disait-il avec un sourire découragé. Au bout de 15 jours, une nouvelle lettre de Claire arriva. Cette fois, elle portait la date de Saint-Blaise à l'autre bout du pays. Elle répétait à peu près les mêmes choses que la première. « Ne vous inquiétez pas, je loge chez une honnête famille. Je me porte aussi bien que mon chagrin me le permet. Je soupire après le moment où je vous reverrai, ma reine, mais ce moment n'est pas venu puisque Luc n'est pas encore marié. Ne cherchez pas à savoir où je suis, ce serait inutile, car une fois découverte, je m'en irai ailleurs. » À sa première visite, Dalphon lut cette lettre. Après l'avoir parcourue, il arrêta les yeux un instant sur Luc et considéra ce visage amaigri, ses yeux ardents qui brillaient de fièvre, ses deux taches rouges au milieu des joues, ses mains effilées où les veines bleues se laissaient voir sous la peau transparente. En moins de 3 semaines, Luc avait beaucoup changé. « Si on le laisse faire, pensa Dalphon, il tombera dans une langueur. » « Puisque vous ne retrouvez pas vos jambes, dit-il en s'efforçant de parler gaiement, j'ai bonne envie de prendre un congé illimité et de battre le pays d'un bout à l'autre jusqu'à ce que je vous ai ramené la fugitive. »« Je vais avec vous, s'écria Luc. Vraiment, oui, pour que vous tombiez en faiblesse à tout bout de champ. Mais vous ne saurez point parler à Claire comme je le ferai. Bien au contraire, je lui dirai certaines choses que vous omettriez, j'en suis sûr. » Et cette fois-ci, je ne reviendrai pas bredouille, je vous le promets. Je m'adresserai aux autorités s'il le faut. Une jeune demoiselle ne saurait disparaître comme une vapeur sans qu'il en reste la moindre trace. Courage, Luc, les beaux jours reviendront. Les beaux jours reviendront et je ne les verrai pas, répondit Luc à demi-voix. Dalphon se donna l'air de ne pas entendre, mais il en eut le cœur serré. « Je pars demain avec le jour, » pensa-t-il. « C'est la seule chose que je puisse faire pour lui. »« Vous êtes le meilleur ami, le plus tendre cœur qui existe, » dit Luc en lui serrant la main quand ils se quittèrent. « Et moi, qui prenais à votre égard des airs protecteurs, Dieu me pardonne. J'ai dû vous blesser plus d'une fois. Oubliez-le, Dalphon. Ah, si c'était à recommencer, je me suis estimé trop haut et j'ai dû descendre plus bas dans cette vallée d'humiliation. » Dalphon Renaud pressa silencieusement la main de Luc et partit. « Quelle que soit l'issue de cette crise, pensa-t-il, elle n'aura pas été inutile. C'est dans ces fournaises-là que le caractère s'affine et se trempe. L'éducation que nous donne la vie est la plus efficace de toutes, en même temps que la plus sévère. » Il était 6 heures du matin, car Dalphon avait passé la nuit à la rosière. L'aube grise éclairait d'une vague lumière les champs où la neige commençait à fondre et qui, rayés et tachetés de noir et de blanc, avait sous cette lumière indécise l'aspect d'une peau de léopard. Dalphon marchait rapidement, désireux de ne pas manquer à sa ponctualité ordinaire. Lyon, qui l'avait accompagné un bout de chemin, venait sur son ordre de reprendre la route de la Rosière et s'éloignait à regret. Il ne comprenait rien au fréquent changement de domicile qui était son lot depuis quelques mois. Comme il y rêvait mélancoliquement, il aperçut un piéton et aboya. Dalphon Renaud tourna la tête. C'était le père Jean qui faisait d'immenses enjambées pour le rejoindre. « Comme ça se trouve, dit le voisin, je vais justement en ville et rien ne m'ennuie comme ce long ruban de route quand je suis tout seul. » Il connaissait bien Dalphon, l'ayant rencontré plusieurs fois avec Luc. « Vous êtes venu voir votre ami, hein ?» reprit le père Jean. « Il n'est pas tant crâne, le pauvre garçon, tout ce travers de temps. Je l'ai vu l'autre jour, pour dire la chose tout uniment, il prend la mine d'un poitrinaire. Est-ce le départ de sa cousine Claire qui le chagrine à ce point ? Cela est autre chose, répondit Dalphon. Il a fait des excès de travail tout l'été dernier, il a eu des soucis, des désappointements, et l'absence de sa cousine lui a porté le dernier coup. Bah, bah, ce ne sera rien, c'est la sève du printemps qui le tourmente. Et dites voir, monsieur, est-ce qu'elle fait un voyage d'agrément, cette petite Claire? Elle est partie bien subito, sans dire adieu à personne. On se pensait que Luc, qui est devenu si grand seigneur, l'avait peut-être envoyée en pension pour qu'elle apprise à toucher le piano comme une demoiselle. Mais à voir le chagrin du garçon, on s'est pensé ensuite qu'ils avaient eu quelques bisbilles. Sait-on seulement où elle demeure à présent? Elle a séjourné au pont chez une vieille parente, répondit Dalphon sans hésiter. Pour la bonne réputation de Claire, il valait mieux qu'on ignorât dans le voisinage le véritable état des choses. Voyez-vous ça, si on l'avait su pourtant, je lui aurais donné une douzaine de petits fromages pour ma fille qui demeure tout près de là, à Martel. Votre fille, répéta Dalphon frappé d'une idée subite. Est-ce que Claire la connaît? Parbleu, je crois bien. Elles ont été quasi élevées ensemble, bien que notre Léonie ait quelques années de plus. Elles étaient bonnes amies, liées comme les doigts de la main. Mais Léonie s'est mariée il y a tantôt 2 ans et ça a rompu les relations. Nous autres, on ne s'écrit guère, vous savez. On n'a pas la plume facile. Comment se fait-il, murmura Dalphon, que Luc ou sa mère n'aient pas songé à cela? Ma fille est établie à Martel depuis 3 semaines au plus. Je ne l'ai pas encore dit à Madeleine Offrand, ça m'est sorti de l'idée. Léonie et son mari tenaient, jusqu'ici, un domaine dans le canton de Vaud, mais ils ont trouvé à se caser plus avantageusement, tout en se rapprochant des ponts où est la famille de mon gendre. « Et quel est le nom de votre gendre ?» demanda Dalphon Renaud, qui semblait fort excité. « Ulysse de Lesserre. » Martel n'est qu'un hameau. Chacun y connaîtra ce nom, je suppose, et l'on pourra m'indiquer la maison de votre fille. Est-ce que vous avez l'intention de lui rendre visite? Oui, peut-être, pour affaire. Ma fille est piériste, comme Claire, elle savait fameusement son métier, et elle y travaille encore, parce que l'ouvrage des champs est trop rude pour elle. Si votre patron voulait l'employer, elle le contenterait tout à fait, j'en suis sûr. C'est bien cela, pensa Dalphon. Claire dit qu'elle a trouvé de l'occupation chez de braves gens. Son amie lui aura prêté un tour, des outils, puisqu'elles ont la même partie. Il s'enfonça dans ses conjectures, fit un plan de campagne, et se fiant mal à la spontanéité de son éloquence, prépara soigneusement les arguments qui devaient ébranler la résolution de Claire. Le voisin Jean trouva son compagnon de route fort laconique et distrait, et ne fut pas fâché de le quitter au premier carrefour. Dalphon courut à l'entrepôt. L'heure d'entrée était dépassée de 5 minutes et l'expéditionnaire un peu confus vit M. Moller assis à son pupitre comme un vivant reproche. « J'ai cru nécessaire de prendre votre place, monsieur, dit le patron, puisque vous n'étiez pas là pour l'occuper. Il me semble que vous vous dérangez depuis quelque temps. » Dalphon Renaud se troubla. Ces petites scènes, avec le patron majestueux comme accusateur et les apprentis comme auditoire, étaient une grande épreuve pour sa timidité. « Je suis fâché d'arriver trop tard, » commença-t-il avec un geste nerveux. « Bien, monsieur, n'en parlons plus, » fit le patron d'un air magnanime. « Je vous rends votre place. » Il quitta le pupitre et allait sortir, mais Dalphon le suivit. « Pardonnez-moi, monsieur, il est absolument nécessaire que je m'absente aujourd'hui. » M. Moller se retourna en fronçant le sourcil. « De nouveau, vous avez pris un congé il y a 15 jours à peine. Quelle est cette affaire si pressante? Vous concerne-t-elle seulement? Vous avez la sotte habitude de vous fendre en 6 pour des gens qui ne vous en savent aucun gré. Attendez quelques jours, nous avons une expédition à terminer. » « Mon affaire ne souffre aucun retard, » répondit Dalphon. « Tant pis, jusqu'à la semaine prochaine, je ne saurai vous accorder de congé. » Dalphon n'hésita pas une seconde, il risquait sa place, mais c'était pour Luc. Comment, lorsqu'il se croyait sur la trace de Claire, eût-il pu laisser son ami une semaine encore, dans cette incertitude qui le tuait? « Je regrette, » dit-il sans bravade mais d'un ton ferme, « que vous me refusiez cette autorisation. Il faut alors que je m'en passe. » Là-dessus, il salua son patron et gagna la porte. « Si vous sortez, cria M. Moller au comble de l'exaspération, vous ne rentrerez plus. » Dalphon Renaud s'arrêta sur le seuil. « C'est mon renvoi, dit-il. » M. Moller hésita. Il savait bien que son expéditionnaire, avec ses rares facultés d'organisation et de contrôle, trouverait sans peine une autre place. Mais lui-même, où trouverait-il un pareil employé? Il suivit Dalphon jusque dans le corridor, afin que la suite de ce colloque échappât aux oreilles curieuses des apprentis. « Parlons raison, dit-il. Pourquoi vous obstinez-vous à demander un congé quand vous voyez bien qu'il m'est également désagréable de l'accorder et de le refuser ? Un intérêt sérieux dépend du petit voyage que je dois faire aujourd'hui même. » « S'agit-il de Luc Offrand ? Demanda M. Moller, à qui un soupçon traversa l'esprit. « Oui. Et vous allez battre le pays pour lui trouver une place, sans doute ?»« Non. Vous êtes diablement mystérieux, Monsieur Renaud. » « Mais puisqu'il s'agit de Luc Offrand, je ne souffrirai pas que le soin de ses affaires passe pour vous avant les miennes. Choisissez, monsieur, entre votre lubie et votre place. »« J'ai déjà choisi, » répliqua Dalphon. « Parfaitement. Dès ce jour, vous êtes libre de chercher un autre emploi. » Dalphon baissa la tête un instant. C'était un rude coup, il ne pouvait le nier. Mais il ne recula pas devant le sacrifice. « On retrouve une place plus aisément qu'un ami, » pensa-t-il, tandis que le visage fiévreux et les yeux ardents de Luc lui revenaient en mémoire. « Dans 8 jours, il sera beaucoup plus malade qu'aujourd'hui si l'on y porte remède. »« Rentrez un instant, » dit le patron, « et réglons votre compte. » Dalphon ouvrit pour la dernière fois le livre de caisse où l'écriture de Luc avait remplacé la sienne. Il y inscrivit, d'une main qui tremblait légèrement, le chiffre de ses appointements du mois. Il jeta un coup d'œil autour de lui, dit mentalement adieu à cette vieille salle dont il connaissait tous les recoins, tous les casiers et tous les tiroirs, puis se tourna vers les apprentis concernés. « Ernest, dit-il, tu reverras soigneusement les articles de l'expédition, comme j'avais coutume de le faire moi-même. Remplace-moi de ton mieux, jusqu'à ce que tu aies un autre chef. » « Si vous vous en allez, » dit Ernest résolument, « je m'en vais aussi. Hein, vous autres, on se met en grève pour M. Dalphon ?» Mais ses camarades restaient irrésolus, les yeux baissés, regardant en dessous la figure irritée du patron. « Tas de ganaches !» fit Ernest d'un ton dédaigneux. « Les canards ont du moins l'instinct de marcher à la queue-leu-leu, mais vous, vous ne savez même pas suivre vos chefs. » Par vos chefs, Ernest entendait M. Dalphon et lui-même. « Qu'on en finisse !» s'écria M. Moller exaspéré. « Décampez si vous voulez et qu'on ferme l'entrepôt !» Mais Dalphon Renaud regarda Ernest d'un air sévère. « Tu resteras, » dit-il. « Tu es au courant, tu dirigeras les autres. Pas un mot de plus. » Ernest baissa la tête, partagé entre le chagrin de voir partir M. Dalphon qu'il vénérait et la joie d'être élevé à un poste d'honneur. Cependant, l'expéditionnaire s'adressa de nouveau au patron. « Monsieur, dit-il à demi-voix, mon ami Luc a laissé chez vous un papier assez important. Avant que nous nous séparions, veuillez me le rendre. »« Êtes-vous autorisé ?» demanda M. Moller d'un ton rogue. À cette question offensante, Dalphon se redressa. « Mon ami étant empêché de venir lui-même réclamer son bien, vous aurez à le remettre en main d'huissier si les miennes ne vous semblent pas sûres, » répondit-il sèchement. M. Moller, sans répondre un seul mot, se dirigea vers son bureau, d'où il sortit un instant après, tendant à Dalphon un papier plié en 4. Dalphon l'ouvrit et reconnut le dessin que Luc, plein d'espérance, avait achevé devant lui le lendemain du bal. Il soupira. « Adieu, monsieur, » dit-il en se tournant vers celui qui était son patron quelques minutes auparavant. « Je regrette de vous quitter ainsi. » « Je le regrette moi-même, » répondit M. Moller avec une grande raideur. « Mais vous vous êtes cru trop nécessaire. Depuis quelque temps, vous vous laissez dominer par un mauvais esprit, un esprit d'insubordination. » L'écho de ce dernier mot, prononcé avec emphase, accompagna Dalphon jusqu'au bout du long corridor dont les dalles avaient si souvent retenti sous ses pas. « C'est dur, » murmura l'expéditionnaire en s'arrêtant sur le seuil. « Mais s'il plaît à Dieu, quelque bien en sortira. Aucun de nous ne vit pour soi-même. En avant et sans regret. » Il courut à la gare et se jeta haletant dans le train qui allait partir. À mesure qu'il approchait du but de son voyage, une poignante anxiété lui serrait le cœur. Enfoncé dans le coin du wagon, puis dans les trois coupés de la diligence, il repassait mentalement tout son entretien avec le père Jean. « C'est un faible indice après tout, » pensait-il. Claire ignorait aussi que son ami fût venu habiter Martel. « Je me suis monté la tête. Heureusement, Luc ne sait rien. La déception sera pour moi seule. » Quand il descendit de voiture, il se croyait cuirassé contre un désappointement. « Je ne trouverai rien, » se dit-il. « Je me suis mis en route comme un écervelé. Mais bah, puisque le patron m'a fait de longues vacances, je les emploierai à chercher Claire comme une épingle, de chasseron à chasseral, et même plus loin s'il le faut. » Il se mit en route à pied du côté de Martel. Aux premières maisons de ce long hameau qui s'échelonne le long du chemin, il s'arrêta et, avisant un gamin qui trottait devant lui, il l'appela. « Hé, mon garçon, peux-tu me conduire chez Ulysse de Lesserre ?»« Ulysse de Lesserre ?» répéta l'enfant. « C'est droit à côté de chez nous ? Oui, monsieur, là-bas, plus loin que cette grande fille. »« Tu connais la famille ?» demanda Dalphon Renaud. « Pas encore très bien. Ils sont nouveaux, vous savez. Ils ont une petite fille qui s'appelle Léonie. »« Est-ce qu'une jeune demoiselle demeure chez eux ?»« Oui, monsieur, » répondit l'enfant sans hésiter. « Comment est-elle ? » poursuivit Dalphon d'une voix émue. « Elle est très belle, je trouve, mais ma grande sœur dit que ses yeux sont trop ronds. Elle a les joues rouges comme une pomme et de fameux bras. On l'appelle la Grande Médélie. C'est une Bernoise qui est venue ici pour apprendre le français. » Le gamin se demanda pourquoi l'étranger qui l'escortait poussait un long soupir et semblait tout à coup si triste et si fatigué. « Nous y serons bientôt, » dit-il d'un ton encourageant. « Tenez, leur prêt commence ici. Voilà Madame de Lesserre devant la maison. Ah, elle rentre. Cela ne fait rien. Vous pouvez aller tout droit jusque dans la cuisine. » « À quoi bon ?» pensa Dalphon Renaud, dont l'espoir, un instant ranimé, venait de s'éteindre entièrement. « Entrons cependant, puisque nous sommes venus jusqu'ici. » Il traversa la cour. Derrière la fenêtre garnie encore de mousse jaunie et de baies rouges comme à Noël, une jeune fille, la tête penchée, tirait lentement l'aiguille. Elle leva les yeux en entendant un pas sur les dalles et poussa une exclamation. C'était Claire. Dalphon, s'étant approché, la reconnut au moment où elle faisait un mouvement pour s'enfuir. Il l'arrêta du geste. « Restez !» dit-il assez haut pour qu'elle pût l'entendre à travers les vitres. « Luc est très malade !» Elle devint pâle. « Je sors » s'écria-t-elle. « Attendez-moi » L'instant d'après, elle se tenait devant Dalphon, silencieuse, attendant les nouvelles qu'il lui apportait. Dalphon vit qu'elle aussi avait bien changé pendant ces 3 semaines. Ce n'était point qu'elle fût défaite, ni qu'elle eût beaucoup maigri, ayant toujours été assez frêle et de petite maille, comme disait Madeleine. Mais ses beaux yeux couleur du temps, si limpides et si gais, étaient sombres maintenant comme un lac après l'orage. Ses lèvres avaient un pli douloureux, ironique, une expression d'amer défi. Dalphon conduisit Claire à l'autre bout de la cour, où ils s'assirent sur de vieilles souches que les bûcherons avaient laissées là. « Est-ce que Luc est vraiment malade ?» demanda la jeune fille dont les lèvres tremblaient. « Bien malade, mademoiselle. Pourtant, il ne sait pas que je suis ici. » « Ce que j'ai à vous dire ne sera pas long. Monsieur Moller a offert à Luc de lui donner sa fille en mariage. Luc a refusé, ce qui lui a fait perdre sa place et ses chances d'avenir. Il est revenu à la Rosière, où une fièvre lente de chagrin et de regret le mine tranquillement, lui ôtant chaque jour un peu de sa force. » La jeune fille posa la main sur le bras de Dalphon, comme pour l'empêcher d'en dire davantage. Mais elle-même restait silencieuse, le front penché, les yeux vaguement fixés sur une touffe d'herbe qui commençait à verdir au milieu du gazon jauni de l'automne précédent. Dalphon attendait, ne voulant point répéter son bref discours de tout à l'heure, encore moins le paraphraser. Et tandis que tous deux restaient muets, les yeux du jeune homme erraient sur le paysage singulier et triste que forme cette longue vallée tourbeuse, coupée de noirs fossés, encadrée de noires montagnes couronnées de neige. Quelques arbres encore dénudés se dressaient au bord de la route comme de gigantesques balais. Les sapins, sinistres sous le ciel gris, se rangeaient en longues files, pareilles à des cortèges funèbres. Les profondes tranchées des tourbières, bordées d'arbustes pareils à des cyprès nains, faisaient songer à un cimetière. C'était lugubre, et quand un souffle d'air froid, un grand souffle de bise de mars, passant faisant gémir les gonds rouillés des volets et la ramée sombre des sapins qui entouraient la ferme, Dalphon Renaud sentit un long frisson le parcourir. Il se détourna à demi pour ne plus voir ce paysage désolé. Claire releva la tête. « Dites-moi, » fit-elle d'une voix brève et dure à force de contrainte. « Dites-moi si Luc savait mon départ quand il a refusé d'épouser Mademoiselle Molaire. »« Oui, » répondit Dalphon, « il était allé la veille à la Rosière et ne vous y avait plus trouvé. » Ils se turent de nouveau. Claire regardait toujours fixement devant elle, le menton appuyé sur sa main. Ses lèvres entr'ouvertes tremblaient. « J'ai beaucoup souffert à cause de lui, » dit-elle enfin lentement. « Pardonnez-lui, Claire. » « J'ai déjà pardonné. Que veut-il encore ?» Dalphon la regarda un instant, perplexe. Qui était-il, lui, pour parler d'amour, fût-ce au nom d'un autre ?« Si vous étiez ma sœur, répondit-il enfin, je vous dirais, Luc est plus digne de vous qu'il ne l'a jamais été. Il vous aime mieux et autrement. Rendez-lui la confiance que vous lui avez reprise. » Claire sourit amèrement. « Qu'est-ce qu'il m'apportera, lui ?» dit-elle, un cœur éternellement partagé qui ne sait ce qu'il veut ni ce qu'il aime. Un de ces jours, son caprice le reprendra. Dalphon Renaud se leva. « Mademoiselle, dit-il tristement, il faut donc que je m'en retourne seul. J'avais espéré de vous autre chose que cette froide rancune. Je m'en vais donc. » Il descendit jusqu'à la route, le cœur navré. Claire le regardait en silence. Tout à coup, elle se leva et courut après lui. « Attendez, oh, attendez » s'écria-t-elle avec un élan de passion. « Que faut-il que je fasse? Mon Dieu, si j'étais sûre qu'il m'aime! Croyez-vous donc, fit-elle en relevant orgueilleusement la tête, que je pourrais me contenter des miettes qu'une autre me laisse? Tout ou rien, je ne veux pas que Luc revienne à moi, faute de mieux. » Cette fois, Dalphon lui saisit les deux mains, non point tendrement, mais avec rudesse. « Écoutez, lui dit-il d'une voix âpre, vous êtes indigne du sacrifice que Luc vous a fait. N'avez-vous pas entendu qu'il a refusé Pauline Molaire à cause de vous? Non, pas même à cause de vous, puisque vous l'aviez rejeté, mais à cause de votre souvenir pour rester fidèle à l'ombre de son amour perdu. Il a eu tort, car vous n'avez pas de cœur. » L'indignation faisait trembler sa voix. Il se détourna brusquement, mais Claire se dressa devant lui, blanche comme la neige, les yeux étincelants. « Vous voilà bien, vous autres hommes !» s'écria-t-elle. « C'est ainsi que vous jugez, vous soutenant les uns les autres dans vos trahisons? Est-ce que je n'ai pas souffert, moi aussi? Est-ce que je n'ai pas tout quitté pour le laisser libre, ce Luc qui se vante de ses sacrifices? Pourquoi m'avez-vous cherché? Laissez-moi ici. Avec le temps, j'aurais oublié peut-être. » Dalphon la regardait, le cœur serré. La partie était perdue. Mais qui rendra jamais compte des impulsions féminines? Claire se taisait maintenant, on voyait sa poitrine se soulever haletante, les larmes montaient à ses yeux, tandis que la rougeur irritée, qui avait un instant fait brûler ses joues, s'en retirait peu à peu. « Vous dites qu'il est malade ? » dit-elle d'une voix troublée. « Oui, » répond Dalphon, pris au dépourvu par ce revirement subit. « Malade ? » répéta-t-elle. « Oh, ce n'est pas de chagrin, allez. On n'est pas malade de chagrin, autrement j'en serais morte, moi. » Elle hésita un instant, et puis, d'un ton bref, « Je pars avec vous, » dit-elle.